Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous pour le 10h midi sur Sud Radio, on est ensemble en direct en ce vendredi 8 mai avec Éric Vérac, bonjour.
Bonjour Valérie.
Entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Laurence Taillade, présidente du Parti Républicain Solidariste. Et vous avez publié Être une femme en 2020. Bonjour Laurence, c'est paru aux éditions Michalon. Kevin Bossuet, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Et Mehdi Ouraoui, essayiste, spécialiste du discours politique. Bonjour à vous
Valérie.
Également. On va parler de ce plan de déconfinement. Est-ce que vous avez été convaincu? Est-ce que vous avez tout compris. Le traçage des patients contaminés, entorse au secret médical ou nécessité pour lutter contre l'épidémie. On aura le docteur Marty en ligne qui est farouchement contre ce traçage. Et puis les stars qui disent non à un retour à la normale et à la société consumériste. Ça vous a déjà beaucoup fait réagir ce matin. On parlera de tout ça avec vous. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Éric Vérac, on va commencer avec vous. C'est l'actualité de ce 8 mai.
Moi, je voulais tout simplement rendre un hommage au 8 mai et à la victoire que nous avons remportée le 8 mai 45 avec la signature de l'armistice. En profiter pour dire qu'on a trop souvent oublié en France que cette victoire du 8 mai, elle était d'abord due à l'effort russe en matière de guerre, puisque les Russes ont perdu 20 millions de personnes et c'est quand même eux qui, d'une façon ou d'une autre, ont porté sur le terrain l'effort le plus important. On a souvent l'impression en France que les États-Unis, mais en réalité, l'engagement soviétique à l'époque a été plus fort. Et je pense que c'est pas mal. Je souligne qu'Arte diffuse une très belle série sur le journal de Berlin 1945. Ouais. Je recommande à tous de voir cette série, qui est vraiment magnifique, qui est faite avec des images d'époque et qui relativise, à mon avis, quand même beaucoup de nos souffrances dû au coronavirus, parce que quand on voit ce qu'était la vie quotidienne, même à Berlin, et pour laquelle je n'ai aucune forme de sympathie particulière en tout cas, même à Berlin, on voit bien que la vie était infiniment plus compliquée, plus terrible, plus tragique que tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui et qui nous fait pousser des cris d'orfraie sur le monde d'après, le monde d'hier, de demain.
Ouais.
Donc, voilà. Je recommande à tous de se souvenir de ce qu'était le 8 mai 45 et de ce que nous étions le 8 mai 45.
Bon, et en ce moment, donc, le président de la République est en train, sur la place de l'Étoile, donc, de déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Ces images sont, que je regarde de côté comme ça, sont étonnantes parce que on voit les présidents se saluer. Il y a Nicolas Sarkozy, il y a François Hollande, se saluer à la japonaise, c'est-à-dire se pencher, mais évidemment ne pas se serrer la main. Voilà, ça fait partie des gestes barrières et des nouvelles procédures. Et je rappelle qu'il n'y a pas de vétérans qui sont là ce soir aujourd'hui pour cet hommage. Un mot peut-être, Kevin Bossuet?
Oui, non, mais je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. Par contre, oui, le peuple russe est mis en avant, notamment pour saluer sa bravoure, c'est très bien, mais j'aimerais quand même rappeler que la Russie à l'époque, c'est quand même une dictature communiste, et que le communisme a fait quand même des millions de morts, et j'aimerais pas non plus qu'on oppose le nazisme au communisme, parce que ce sont deux idéologies criminelles, hein, qui ont tous provoqué du sang et des larmes dans nos sociétés au XXe siècle. Donc c'est pour ça que j'aimerais rétablir quand même cet aspect des choses.
Bon, on va passer
après, on voit pas très bien le rapport
Mehdi,
avec les,
Mehdi Ouraoui,
y compris les militants communistes français pour le coup, qui étaient plus que patriotes, qui faisaient partie dans l'après-guerre, y compris des gens qui ont accompagné le général. Ça me paraît un peu compliqué l'idéologie est une chose,
vous savez,
mais la réalité du sacrifice des militants communistes est quand même. Je crois pas que Stalingrad, qu'on le veuille ou non, puisse être rayé d'un trait de crayon. Alors désolé, on ne parle pas d'actualité, mais on parle d'histoire, d'un trait de plume, simplement, au titre, évidemment, des goulags que personne ne conteste, etc. Enfin, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger non plus.
Non, mais je ne mélange pas du tout. Je ne souhaite pas rayer d'un coup de crayon, notamment Stalingrad. Je dis simplement que l'URSS est quand même alliée à l'Allemagne nazie avec le pacte germano-soviétique et les communistes français ont quand même soutenu un homme qui s'est directement allié avec Hitler. Donc je crois qu'il ne faut pas
remettre en avant les vérités.
Éric a déclenché un
thème Arte à 11h du matin.
Voilà.
Je suis désolé.
On va parler de choses un peu plus. Non, mais c'était bien d'évoquer ce 8 8 mai ce matin. Laurence Taillade, on passe à tout autre chose avec vous et on sort du coronavirus.
Voilà, on sort du coronavirus, même si effectivement j'avais eu une hésitation, et je veux le dire quand même au passage, je veux rendre hommage aussi aux soldats de l'opération Barkhane, ouais. puisqu'on a eu 2 morts encore cette semaine, et c'est un petit peu d'actualité quand on parle du 8 mai. Donc moi, oui, je voulais me pencher plutôt sur une autre question, alors je vous emmène très loin, au Soudan, où on a décidé enfin de pénaliser l'excision, alors vous allez me dire c'est très loin, et finalement ça ne nous concerne pas tellement, et pourtant si, parce que l'excision en France, c'est 55 000 personnes, 55 000 femmes qui sont excisées dans notre pays. Et ces excisions, elles sont directement la conséquence justement de ces pratiques culturelles, qui sont importées sur notre territoire. Il faut quand même rappeler que on a notamment dans 93 sur 4000 accouchements 15 à 20% des femmes qui sont excisées. Donc c'est pas une histoire passée, c'est pas quelque chose qu'on peut traiter à la légère, puisqu'une femme excisée, c'est une femme qui toute sa vie subira des séquelles qui au-delà d'être psychologiques sont physiques. Ce sont des infections urinaires, vulvaires, des infections gynécologiques, parfois une stérilité et des difficultés à l'accouchement, des rapports sexuels évidemment, je vous laisse imaginer.
Non mais c'est une pratique, vous avez pas besoin de détailler, c'est une pratique abominable, moyenâgeuse et
mais c'est vrai que
barbare,
c'est important de le dire parce que malheureusement, il y a très peu de reportages sur la question de l'excision. Absolument. Or, en France, c'est un acte qui n'est pénalisé que depuis le début des années 80 grâce à l'action notamment de Linda Veil-Curiel qu'il faut saluer parce que auparavant, ce n'était pas un acte, ce n'était pas pénalisé, c'était considéré comme une atteinte effectivement, mais on ne considérait pas qu'il y avait mutilation dans notre pays. Et je rappelle aussi que cette pratique, elle a eu lieu dans notre propre pays, considérant que l'orgasme féminin était une aversion pour les hommes. Donc, c'est important de rappeler que le corps de la femme, comme le corps de l'homme d'ailleurs, puisqu'on peut parler dans les mutilations sexuelles de la circoncision, qui est aussi une mutilation.
Je pense que c'est pas, c'est pas tout à fait comparable. C'est pas tout à fait comparable.
C'est une mutilation à vie. Je suis désolée, mais en l'occurrence, les rapports, les études qui ont pu être menées démontrent que il peut y avoir des impacts et des incidents sur la sexualité, et imposer à un enfant une mutilation alors qu'il n'est pas en âge de choisir, c'est une mutilation de la même façon que l'excision. Mmh. Donc notre pays qui devrait être normalement à la pointe des droits de l'homme, devrait aussi se battre contre ces mutilations qui sont, je le rappelle, d'origine culturelle ou culturelle, et ça c'est inacceptable dans un pays qui se prétend laïque.
Bon, Mehdi, oui, vous vouliez réagir?
Non, bon, je crois que c'est tout à fait bien résumé.
Effectivement, c'est important qu'il y ait des pays qui, comme le Soudan, qui vont pénaliser, peut-être qu'il y aura une prise de conscience dans ces pays. Kevin Bossuet, c'est un coup de gueule.
Oui, donc un coup de gueule contre les mensonges qui sont véhiculés à l'encontre du Premier ministre Viktor Orban, du Premier ministre hongrois dans les médias. Hein. Le dictateur pour les Échos, la démocratie hongroise pour Libération, Orban scène la démocratie pour l'Express. Hein. On ne compte plus dans les médias français le nombre d'articles insultants, diffamatoires à l'encontre du Premier ministre hongrois hein, depuis que ce dernier a décidé de lutter de manière radicale contre le Covid-19.
Ah, vous direz tout à l'heure. Ouais.
Cette aversion à l'encontre de Viktor Orban dans la presse française ne date pas d'aujourd'hui, hein, puisque c'est le cas depuis notamment mai 2010, le jour où il est devenu Premier ministre de la Hongrie. Hein, il est devenu l'une des têtes de Turc préférées, des défenseurs de l'Europe de Bruxelles et autres hurluberlus de la mondialisation heureuse et du sans-frontiérisme ni sans foi ni loi. Souvenons-nous d'Emmanuel Macron qui, en Slovaquie, l'avait pris en partie en le traitant d'esprit fou qui ment à son peuple. Donc en fait, qu'est-ce qu'on reproche à Orban, apparemment d'après ses adversaires, de s'être emparé de tous les pouvoirs de manière illimitée, voire d'avoir fait un coup d'État. Or, c'est complètement faux. Non, c'est pas le cas. Viktor Orban a parfaitement respecté les règles de la démocratie hongroise et notamment de la Constitution, puisque l'état d'urgence, son prolongement, donc, a été voté par l'Assemblée nationale à 68%. On lui reproche d'avoir pris les pleins pouvoirs. Or, c'est faux. Il n'a pas fait plus que Macron ou Merkel, hein, d'avoir pris des mesures exceptionnelles pour surmonter une situation qui l'aide tout autant. De plus, le Parlement peut révoquer à tout moment l'état d'urgence. Le Parlement hongrois continue à siéger, continue ses travaux, notamment pour tout ce qui est les sujets qui ne sont pas liés au Covid-19 et concernant les décrets gouvernementaux pris pour lutter contre le Covid-19, ils sont naturellement soumis aux tribunaux et à la Cour constitutionnelle. On lui reproche également que ses pouvoirs seraient illimités dans le temps.
Oui. Il a en fait, on a beaucoup parlé de lui parce que le 30 mars dernier, il a précisé qu'on pouvait légiférer par décret sans limite de durée.
Donc, mais c'est faux, Valérie, parce que relisez la loi, c'est marqué que la limite, c'est la fin de la crise sanitaire. Je veux dire, ça revient exactement au même qu'Emmanuel Macron qui fixe une date et qui n'a de cesse de la repousser jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Donc, c'est complètement malhonnête. La vérité, c'est que Orban ne dérange pas parce qu'il sera un dictateur en herbe. La vérité, c'est qu'il dérange car il défend des valeurs qui indisposent ceux qui rêvent de transformer l'Europe en laboratoire multiculturel du progressisme sociétal.
Victor Orban a imposé qu'il lutte contre l'immigration massive et le multiculturalisme. Il lutte aussi contre les droits de la femme, puisque je rappelle quand même que Victor Orban, sa perspective, c'est de revenir à des valeurs familiales traditionnalistes, et notamment pour envoyer la femme au foyer, et de fermer l'accès des femmes à l'IVG et à la contraception.
Entendre Orban plein comme si c'était pauvre chou, une espèce de perdreau, de victime de l'Europe, vous comprenez. Orban, moi j'ai manifesté avec le peuple hongrois contre Orban il y a de ça plusieurs années, quand son pouvoir commençait à s'affirmer.
Le peuple hongrois l'a quand même réélu à plusieurs reprises.
La réalité, c'est qu'Orban, comme beaucoup de dirigeants, non pas autoritaires, mais autoritaires light, se présentait comme le rempart à l'extrême droite, et notamment un parti qui s'appelle le Jobbik. En Hongrie, c'est un parti, de fait, un parti fasciste, et un parti raciste, et un parti antisémite. Moi, je ne lève pas ces mots-là à la légère. Et donc, Orban se présentait comme un rempart à ce parti. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit? C'est ce que vient de dire Laurence Tayade. C'est-à-dire qu'à l'égard des femmes, à l'égard des minorités, à l'égard des homosexuels, mais de manière plus générale, à l'égard des démocrates, à l'égard des gens qui ne sont
mais
pas d'accord
avec nous. Mais c'est complètement faux. Vous méconnaissez ce qui se passe en Hongrie.
Et surtout, je finis là-dessus. Kevin, vous n'êtes pas Orban. Calmez-vous. Moi, ce qui me préoccupe le plus qu'Orban, c'est la corruption. C'est-à-dire qu'Orban est surtout quelqu'un qui, comme beaucoup d'autocrates, comme Bolsonaro, comme Trump, comme d'autres, adore s'enrichir sur la base de...
On va pas faire ce débat-là parce que je sens qu'il est passionné. On va marquer une petite pause et vous reviendrez avec Mehdi Ourahoui et son coup de cœur. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi, on est en direct, 0826 300 300. Qu'avez-vous pensé du plan de déconfinement hier annoncé par Édouard Philippe? Est-ce que vous avez compris ce que vous pourrez faire ou ne pas faire? Et il y a une auditrice qui nous dit, je regarde en ce moment la cérémonie, personne n'a de masque, Paris est en zone rouge, ils sont tous côte à côte, est-ce qu'ils auraient dû porter des masques? Les masques pour l'instant ne sont pas obligatoires dans l'espace public, ça le sera dans les transports. Alors effectivement, ils auraient peut-être dû porter des masques, je ne sais pas. Donc vous avez regardé vraisemblablement.
Ils
n'ont
peut-être pas trouvé. Hein.
Pourquoi? Vous avez du mal à en trouver, vous, Mehdi Ourahoui?
Non, mais eux, manifestement, ils ont eu du mal à en trouver pendant quelques semaines. J'en ris, mais c'est tragique.
Oui, non, c'est tragique. Pardon, j'ai oublié votre coup de cœur avant de passer
au
déconfinement.
Mon coup de cœur pour positiver, parce que là, quand même, on était dans Orban, dans les nazis. On va essayer
l'excision.
Dans la démocratie populaire.
Oui, de vous inquiéter. Allez, on va se projeter vers... vous allez voir, là, pour le coup, il y a un vrai sujet démocratique, mais surtout un sujet économique. On va se projeter dans le futur et non pas... passé, même si évidemment il faut toujours regarder le passé pour savoir quoi faire dans le futur, mais on a un vrai sujet qui est hyper intéressant en ce moment, personne ne parle. Alors moi j'aime pas plaquer des analyses sur les événements du Covid, vous savez, en ce moment tout le monde avait vu tout juste et avait raison sur tout. Les écolos pensaient que voilà, c'était la crise écolo, les libéraux pensaient que il faut plus de libéralisme pour régler la crise, etc. Moi j'essaie de pas faire ça, mais quand même il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'en Tunisie comme en France par exemple, Les robots servent, remplacent la police dans les rues ou dans le ciel avec les drones, mais il y a même des robots policiers dans les rues. En Chine, ils livrent les repas dans les hôtels aux patients qui sont soupçonnés de Covid, aux clients qui sont soupçonnés de Covid, et dans les hôpitaux aux patients. En France, il y a aussi des robots d'accueil. À Taïwan, je crois qu'il y a même eu un stade qui a utilisé des robots pour remplacer le public, etc. On voit qu'il y a une… Alors, je parle évidemment pas des caisses automatiques chez Monsieur Carrefour, chez Monsieur Auchan, chez Monsieur Leclerc, etc., qui sont maintenant démultipliés. Et donc, il y a peut-être une bonne nouvelle dans cette crise, c'est que… bon, alors, on voit la robotisation, évidemment, démultipliée, y compris sous la forme de la télémédecine, de la télééducation, du télétravail, etc.
Oui, enfin.
Mais il y a une question qui est en train d'émerger partout. Bill Gates l'a reporté il y a quelques années, Benoît Hamon aussi. C'est que maintenant, la taxe robot va devenir totalement incontournable. C'était, alors, la taxe robot, ce n'est pas les robots qui payent des impôts, hein, qui remplissent des feuilles de déclaration d'impôts. Ça peut être, par exemple, un malus pour un patron qui utilise beaucoup de machines et qui ne veut pas reconvertir ses salariés. Ça peut être, disons, une cotisation sociale sur la caisse automatique qui remplace une caissière. Bah, au lieu de payer des cotises sur le salaire de la caissière, bah on peut imaginer que ce soit légèrement. En tout cas, y a notamment, on peut commencer par exemple pour tout ce qui n'est pas délocalisable, parce que le risque évidemment ce serait les délocalisations. Mais on pourrait imaginer par exemple dans une économie où il y a de plus en plus de services, donc on parle typiquement de cette fameuse caisse automatique. Mais demain ce sera des robots qui font le ménage, demain ce sera voilà.
Parce que c'est des métiers, c'est des super métiers, caissière et femme de ménage.
Justement, cette fameuse taxe robot, elle permet de financer la formation et la reconversion de gens dont personne ne peut souhaiter qu'ils restent toute leur vie dans un métier comme caissier.
Évidemment. Un petit mot, Eric Vérac, parce que c'est.
Non, mais je crois qu'on a tous compris qu'on était rentré, maintenant qu'il va falloir trouver de l'argent pour financer le chômage partiel qu'on a versé à toutes ces caissières ou tous ces gens qui n'ont pas pu travailler, il faut rembourser.
Elles ont travaillé, les caissières. Hein. Là, les caissières, elles ont travaillé. Hein.
Mais il y a plein d'autres gens qui n'ont pas travaillé. Et il y a quand même 12 millions de salariés aujourd'hui qui sont au chômage partiel.
Et d'ailleurs, elles ne vont pas toucher leur prime.
Je vais finir. Il y a quand même 12 millions de salariés aujourd'hui qui sont au chômage partiel. Il va falloir rembourser ce qu'on leur a versé. Et donc, on a tous compris qu'on était parti dans le concours Lépine de la fiscalité et que l'idée va être de trouver un impôt sur tout et sur toute opération. Moi, ce que je suggère à Mehdi, c'est qu'on lève un impôt pour tous ceux qui ont un ordinateur chez eux, puisque comme le premier robot qui existe,
ça s'appelle l'ordinateur. Voilà. Non, ça s'appelle la redevance.
Et je propose que tout employeur qui a équipé son entreprise d'ordinateur paye une taxe sur chaque ordinateur, parce que c'est vrai que ça a été une façon de virer des sténodactylos, et que si on revenait à la France des années 70, ce serait vachement mieux.
Éric, c'est pas la peine de caricaturer.
Oui, non, mais…
C'est pas la peine de caricaturer une idée.
Vous vous caricaturez tout seul. Mais
non, c'est pas vrai qu'avoir un ordinateur à la maison…
Je signale quand même que cette idée…
Mais c'est pas vrai qu'avoir un ordinateur à la maison,
c'est pareil que remplacer une caissière par une caisse. Les deux premiers à avoir émis cette idée qu'il fallait recruter des caissières plutôt que d'avoir des caisses automatiques, c'est en partie Benoît Hamon. Ou faire payer, c'est Benoît Hamon et c'est Marine Le Pen. Donc je suis heureux d'avoir que Mehdi Ouraoui reprend le programme de l'Assemblée nationale.
Ça fait du bien de parler d'autre chose que du coronavirus. Attendez, Laurence Taillade et puis après Kevin.
Oui. Merci Valérie. Juste un mot sur cette question, parce que je me rends compte que finalement on est en train tous souvent de dire que cette crise devrait nous amener vers une orientation, vers un nouveau monde, vers une sortie justement peut-être des anciennes solutions. Et je constate que les solutions qui sont avancées sont le plus souvent des solutions de taxation qui sont finalement des vieilles solutions que l'on transpose d'un modèle à un autre. Moi je pense qu'au contraire le monde, l'évolution de la fiscalité devrait être radical. Et en l'occurrence, cette radicalité, si on veut une imposition juste, il va falloir qu'on la fasse notamment sur les flux financiers, parce que là, il y aura une vraie justice, parce que tout flux financier peut être effectivement à l'origine d'une taxation, mais ça doit être aussi la question qui devrait revenir sur le devant de la scène du revenu universel d'existence, parce que là, effectivement, on remet à nouveau l'individu au centre des choses, et c'est un levier qui nous permettra aussi d'agir sur la consommation locale. Et pour l'instant, je constate que les solutions qu'on trouve, eh bien, ce sont des vieilles solutions de l'impôt, de la taxation,
Laurence,
de la TVA.
Oui. Mais on va en avoir.
Attendez, Kevin. Kevin veut réagir, et Mehdi, puis après vous.
Moi, j'aimerais réagir quand même. Moi, j'adore Mehdi, j'adore ce qu'a dit Mehdi, parce que c'est révélateur de ce qu'est la gauche, en fait, aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, pour la gauche, les frontières, les nations, l'identité française, ainsi que nos racines chrétiennes, n'existent plus, en fait. Pour la gauche, il n'y a plus que les impôts et les aides sociales qui existent. Et là, comme j'ai le porte-parole, enfin, pas en face de moi, mais j'ai le porte-parole de Benoît Hamon, la mesure phare de Benoît Hamon, qui était le revenu universel, c'est-à-dire de l'argent aux entrepreneurs pour le verser à n'importe qui. Voilà ce qu'est la gauche, et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est morte.
Bon, allez, on va passer au plan de déconfinement. On aura l'occasion de revenir.
Juste pour terminer,
sur le monde d'après.
Pour le coup, moi, je ne suis pas du tout pour faire des impôts partout, tout le temps. Je crois qu'on a atteint, par ailleurs,
mais c'est ce que vous venez de dire
en France. Mais non, ce que je dis, c'est que, par exemple, il ne faut pas caricaturer. C'est-à-dire que, par exemple, quand on
vous
dit…
Vous caricaturez tout seul.
Un malus… Mais Kevin, essayons de nous écouter. Parce que c'est sûr que ce ne sera pas demain chez Orban qu'on aura un universel et taxe promo. Donc, je vous dis simplement, on n'est pas obligé de penser en termes de taxes. Dire que, par exemple, un patron doit reconvertir ses salariés quand il crée des machines, ou dire simplement un truc de bon sens, savoir… Il n'y a pas de raison pour que M. Carrefour, il fait beaucoup de profits en ce moment, etc. Il ne paye pas. Mais même, je suis prêt. Allez, je lui fais un rappel.
Mais s'il était fermé, M. Carrefour, ça va de taper sur la grande distribution tout le temps. Ils ont été là aussi. Évidemment qu'ils ont profité de la situation. Mais si on avait fermé Carrefour, on aurait fait quoi ?
M.
Carrefour qui fait des profits.
Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la famille Mouillès qui était là. Pardon, ce n'est pas M. Auchan. Je suis désolé, c'est les caissières qui étaient là. Il faut à un moment donné, il faut quand même revenir au réel. Ce n'est pas M. Carrefour qui était derrière la caisse qui risquait. Et donc, je suis quand même embêté que M. Carrefour, qui fait quand même beaucoup de profits en ce moment, par exemple, chipote sur les 1 000 euros de primes qu'il s'était engagé à verser aux caissières, en disant, vous comprenez, on vous fait des contrats courts et des contrats à temps partiel, des contrats avec très peu d'heures dans la semaine, donc vous ne toucherez pas vos 1 000 euros. Donc voilà, pour finir là-dessus, je dis simplement que ça paraît pas non plus délirant de dire que quand il paye des cotisations sociales sur une caissière, quand il la vire, peut-être qu'on peut dire qu'il paye ne serait-ce qu'un rabais de 50% de cotisations sociales sur le robot qui met à sa place.
Voilà, et vous tuez l'économie. C'est formidable,
mais, à gauche. Mais ça veut rien dire, ça.
Il faut préciser que dans cette affaire, Carrefour et les hypermarchés n'ont pas fait de bonnes affaires à l'occasion du coronavirus. Ce sont les supermarchés locaux qui ont tiré leur épingle du jeu, mais les gens n'ont pas pu majoritairement aller dans les hyper. Donc là aussi, des raisonnements simples de « ils se sont fait plein de pognon », c'est du complotisme, ça ne vaut pas plus que le protocole des sages de Sion. C'est un fantasme. En réalité, il faut assumer ce qu'on est. Vous reprenez tous les codes de l'antisémitisme en les appliquant à la France contemporaine.
Mais n'importe quoi.
Mais la réalité, c'est que la grande. Non, mais c'est la liberté de penser qui
est insultée. Mais 150 millions de CICE pour M. Carrefour, c'est pas les protocoles de l'antisémitisme.
On ne peut pas tout mélanger d'un coup.
Non, mais pardon.
L'histoire du CICE, il y a la question du coronavirus. Non, mais tout n'est pas dans tout et tout ne se vaut pas éternellement.
Pardon.
On ne peut pas éternellement mentir aux gens,
disons-nous juste une vérité. Est-ce que oui ou non, par exemple, M. Carrefour vire 2000 caissières après avoir touché 100 millions ou 150 millions de CICE ? Est-ce que c'est vrai ?
Parce que le modèle de la grande distribution est tendu. Et donc, il faut arrêter de faire croire que c'est parce qu'il y a plein de gens qui se font du pognon en écrasant les autres.
Mais ne leur demandons pas l'économie.
Non, mais on a bien compris que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de chômeurs en France. On a bien compris que vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'impôts. Et vous trouvez qu'il y a trop d'entreprises qui font du profit.
Mais on a bien compris.
Mais toutes ces entreprises-là, elles vont à l'étranger parce qu'elles en ont marre de se faire marcher.
Mais il va mettre ses caisses automatiques à l'étranger.
Mais nous ne sommes pas dans une économie soviétique.
Mais Eric, est-ce que vous allez acheter vos tomates cerises au Luxembourg ? Est-ce que vous allez aller faire vos courses ? Est-ce que vous allez acheter votre jambon au Luxembourg ? Il n'a rien de localisé du tout.
Si j'en avais la faculté, j'irais, bien sûr.
Ben oui, ça on a bien compris.
Oui. Vous êtes en train de transformer la France en enfer fiscal.
Ce populisme anti-patron est complètement délétère. Moi, j'aimerais insister sur tous ces patrons qui ont donné du gel hydroalcoolique, qui ont donné des masques, notamment aux Français, parce qu'ils n'en avaient pas. Je crois qu'il faut saluer aussi le rôle de ces patrons dans cette crise du Covid-19.
Bernard
Arnault, par exemple, qui était exceptionnel.
Moi, je pense qu'on verra la réalité.
Ils ne les ont pas stockés. Dites pas n'importe quoi, mais ils ne les ont pas stockés.
C'est vrai, c'est la réalité.
Je pense qu'on verra la réalité de cette implication des patrons et notamment des grandes entreprises quand il y aura leur redistribution des dividendes qui sera publiée au mois de septembre, et là on verra s'il y a une réalité ou pas.
Absolument, parce que de nombreux, enfin beaucoup de grandes entreprises ont renoncé à leurs dividendes, à leurs bonus, ont diminué leurs salaires. On ne peut pas schématiser, on ne peut pas dire les patrons sont formidables ou ils sont tous des salauds. Il y a eu de la solidarité, il y a eu des choses. C'est un peu schématique ce que vous dites, les vilains Auchan, les vilains Carrefour. D'ailleurs, Carrefour, c'est pas la famille Mulliez.
Nos restaurateurs et nos bars en train de crever, c'est quand même pas normal que les assurances se versent des dividendes pareils.
Allez. On va revenir dans un instant. On aura le docteur Marty avec nous pour parler du traçage des patients contaminés, entorse au secret médical. Il va nous expliquer pourquoi dans un instant. Et vous pourrez bien évidemment réagir 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert, débat.
Alors, on est ensemble jusqu'à midi. On va parler du plan de déconfinement. Dans ce plan de déconfinement, il est prévu le traçage des patients contaminés. L'ordre des médecins s'est élevé contre ce traçage. On est en ligne avec le docteur Jérôme Marty. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'UFML, vous avez tweeté ce matin en vous insurgeant contre ce traçage. Alors expliquez-nous ce qui est prévu et en quoi c'est une entorse au secret médical, et est-ce que, la question qu'on peut se poser, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui pour justement lutter contre cette épidémie? Si vous pouvez nous expliquer un petit peu.
Alors ça fait plusieurs jours qu'on s'élève contre ça. Il y a la forme et il y a le fond. Sur la forme, vous savez que le socle de la médecine, c'est le secret médical et c'est le consentement du patient. C'est là-dessus qu'est basée toute la confiance, tout ce lien de confiance que peuvent avoir les patients envers leur médecin et leurs soignants. Là, on nous dit quoi ? On nous dit que on va diagnostiquer un patient Covid, qu'on va le tester, qu'ensuite on va être chargé de s'occuper de son premier cercle, c'est-à-dire de la famille, et puis que des équipes vont être mises en place qui vont rechercher les autres patients ou les autres personnes avec qui le patient a été en contact. Pour cela, va être créé un fichier et donc des personnels qui ne sont pas des personnels du soin qui vont avoir accès à ce fichier. Et il est écrit dans le décret qui préside à cette organisation, à ces fameuses brigades, à ce fameux contact tracing, il est écrit l'exportation d'un fichier. Les données peuvent être partagées, le cas échéant, sans leur consentement, dans le cadre d'un système d'information. Donc nous, tant qu'on n'a pas de garantie quant à l'anonymisation des données, quant au respect du consentement du patient, on ne peut pas mettre les doigts là-dedans. C'est aussi simple que ça, c'est plus qu'un dogme, c'est ce qu'il faut comprendre, quoi. C'est vraiment ce qui fait l'assise de la médecine. Si on commence à ouvrir le champ des possibles quant au non-respect du secret médical et au non-consentement du patient, là, ça ouvre à toutes les dérives. Donc ça, on ne peut pas, et c'est ce qu'a relevé fort heureusement le Conseil de l'Ordre, l'Académie de médecine. On attend également les positions du Comité national d'éthique, et puis il nous faudra aussi les positions du Conseil constitutionnel là-dessus. Bon, ça c'est la forme.
Oui. Mais ce n'est pas une nécessité pour briser justement les chaînes de contamination ?
C'est pour ça que je vous réponds sur le fond.
Oui,
le fond est totalement discordant et on n'en parle pas assez, à plusieurs titres. Le premier, encore une fois, donc, on détecte un patient en Covid. Ça se fait sur la base du savoir du médecin et de son diagnostic. On l'envoie faire un test. Si le test est négatif, la personne repart dans la nature. On ne la confine pas. Si le test est positif, on lui dit de se confiner et on s'occupe donc de son premier cercle. Il faut savoir qu'il y a 30% de faux négatifs dans ces tests. Ouais. Donc ça veut dire que potentiellement, on ne fait pas attention, on ne se base pas sur le diagnostic du médecin, mais on se base uniquement sur le résultat du test. Et dans le même temps, c'est là où c'est totalement discordant, dans le même temps, on nous dit qu'on va donc regarder son entourage familial qui vit avec lui, on va les garder confinés 7 jours, au bout de 7 jours, on va les tester. Si le test est négatif, on va leur demander de rester confinés parce qu'il peut y avoir des faux négatifs. Donc on est dans une discordance totale. Deuxième discordance qui est plus importante, celle-là. On a, en gros, on vous dit en zone cluster, entre 1000 et 3000 contaminations par jour. 1000 et 3000 contaminations par jour, c'est quasi impossible d'aller détecter l'entourage. Et surtout, quand la personne vient vous consulter, elle a été contaminée en moyenne 2 jours auparavant. Si elle a les symptômes depuis 2 jours. Si elle a les symptômes depuis 2 jours, elle a été contaminée encore 2 jours avant. Donc il s'est déjà passé 4 jours. Ce qui veut dire qu'à l'instant T où vous la voyez, les sujets contacts avec qui qu'elle a croisé sont déjà eux-mêmes vecteurs du virus. Déjà eux-mêmes. Ce qui veut dire que ce n'est plus 25 personnes qu'il vous faut retrouver en moyenne, mais c'est peut-être 100, 150, 200. On perd du temps avec ce système. Et dernière chose, qui montre que sur le fond, c'est discordant. Combien d'heures par jour les brigades travaillent-elles? Est-ce que vous avez entendu un seul moment quelqu'un vous dire que ces brigades allaient travailler H24? Parce que le virus, lui, fait les 3-8. Le virus travaille H24. C'est un peu comme si on vous disait, quelqu'un se noie, on va abandonner les recherches à 18h, on les reprendra le matin à 9h. Ceci est discordant. Donc c'est pour ça qu'on propose qu'à côté de ça, on mette d'autres moyens. Le premier moyen, c'est de donner la possibilité aux pharmaciens, aux infirmières, aux médecins de faire des tests, de les faire, de tester un maximum de personnes et de rechercher les asymptomatiques. Pourquoi ? Parce que ce test a des faux négatifs. Si vous employez ce test avec des faux négatifs sur des gens à qui vous avez diagnostiqué le Covid, qui ont des symptômes, là vous allez tomber sur le risque qui est celui d'avoir des faux négatifs et donc d'écarter quelqu'un qui a la maladie. Alors que si vous le faites sur des asymptomatiques, vous allez potentialiser votre test, puisque là vous allez attraper des gens chez qui vous allez détecter la maladie alors que le diagnostic ne l'aurait pas attrapé.
Mais les faux négatifs sont moins importants
puisqu'il s'agit de gens asymptomatiques. Là, vous potentialisez l'effet du test. Vous renforcez votre diagnostic. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est en train. Et puis, dernière chose que l'on propose et qu'il faudrait faire véritablement, c'est quand on dit que nous n'avons toujours pas allumé la lumière, c'est-à-dire que là, on vous donne des espèces de cartes à colorier, en rouge, en vert, en orange, et puis on n'a toujours pas regardé quelle était la diffusion populationnelle de ce virus. C'est-à-dire qu'on aurait monté un espèce de test aléatoire populationnel monté comme un sondage, comme aurait fait la Sofres, IFOP, etc. Sondage reproductible par région. On aurait su exactement quel risque vous avez de vous contaminer si vous êtes dans la Loire, si vous êtes en Ariège, si vous êtes dans le 12e arrondissement versus 11e, etc., etc. On ne l'a toujours pas fait. Donc ce qui fait qu'on vous dit, ben regardez, là vous êtes en vert, mais en fait vous ne savez pas si ça circule ou non. On ne le sait toujours pas.
Ouais. Oui, c'est ce que nous avait dit une épidémiologiste au cours de l'épidémie, qui était très étonnée de la méthode qui était employée et qui dit on aurait pu choisir une catégorie, etc. D'accord, mais on a bien compris. Il y avait une chose que vous dites aussi, c'est que les consultations seront majorées. Vous obtiendrez, vous médecin, 55 euros pour le signalement d'un patient atteint du Covid, 2 euros pour si vous donnez son nom, son prénom et sa date de naissance, et 4 euros pour le contact et numéro de sécu.
C'est le prix du déshonneur.
C'est hallucinant, ça.
C'est le prix du déshonneur, le prix de l'abandon des secrets médicaux et du consentement pour 2 ou 4 euros. Mais on se fout de nous. Quoi.
Mais c'est quoi ça veut dire quoi, ces 2 euros, c'est pour vous inciter à balancer.
Mais écoutez, on peut se poser la question, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on s'imagine que les médecins balanceraient pour 2 euros. Il n'y a pas de prix pour ça. Même pour 1000 euros, pour 2000 euros, pour trucs, on ne le fait pas. Ouais. C'est un problème, c'est même plus que de l'honneur. Quoi. Encore une fois, c'est notre assise, c'est notre dogme, c'est notre éthique. L'éthique, ça ne s'achète pas.
C'est assez hallucinant. Merci beaucoup, docteur. Comme disait dans le
château de mon père, l'honneur, ça ne sert qu'une fois. C'est comme les allumettes.
Ouais. Ouais. Bon, écoutez, on va voir si vous serez entendu. Merci Jérôme Marty. Merci. C'était très clair. Merci docteur. Merci d'être intervenu. Qui veut réagir?
Valérie, je suis pas tellement surprise en fait de la stratégie qui a été adoptée par le gouvernement, parce que de toute façon on voit bien, on a une couleur sur une carte, on n'a pas le nombre de capacités de tests. Je rappelle qu'il y a pas très longtemps encore, on était à 150 000 tests par semaine, on a voulu passer à 700 000, mais en l'occurrence hier il n'a jamais été question de chiffres, mais exclusivement de couleurs et de prétendues capacités à faire ces fameux tests. Moi, ce que j'entends de par le corps médical, c'est que pour pouvoir faire ces tests, on est dépendant notamment des consommables, écouvillons notamment, et puis réactifs, la plupart des laboratoires ont du mal à se procurer. Donc je veux bien entendre qu'il y ait des laboratoires qui soient en capacité de faire les tests, mais il va falloir aussi qu'ils aient le matériel nécessaire, et ça n'est pas encore, on n'a pas la certitude, en tout cas, on n'a pas eu de chiffre hier. Donc oui, il y a des doutes importants de la part du corps médical qu'il faut relayer, et peut-être que la stratégie qui a été adoptée, c'est certainement une stratégie pour pouvoir justement contourner ce problème de cette incapacité à tester massivement.
Oui.
Préciser quand même que les réticences ne viennent pas seulement du corps médical, mais du Conseil d'État lui-même, puisque dans un avis que peu de gens ont lu, mais qui était l'avis sur le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire, le Conseil d'État a dit qu'on pouvait utiliser ces fameux anges gardiens, puisque c'est de ça qu'on parle, mais qu'aujourd'hui, le recueil des données n'était pas fait dans des conditions de protection de la vie privée, suffisante et suffisamment explicite. Et le Conseil d'État a mis en garde le gouvernement sur la nécessité de préciser les conditions dans lesquelles la vie privée des Français allait être protégée, parce que le Conseil d'État considère qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas donné de garantie suffisante sur ce sujet. Alors, ma conviction, c'est qu'en réalité, la France est un pays du Gaulois réfractaire et que donc, dès qu'on touche à ses libertés individuelles, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mauvaise volonté, à bon escient. On entend les propos du docteur Marty aujourd'hui qui me semblent marqués du sceau du bon sens, c'est-à-dire que je pense que plein de gens vont refuser de jouer au dénonciateur anonyme. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les institutions de la République ont mis en garde le gouvernement, et en particulier le ministère de l'Intérieur, pour aller vite, et de la Santé, sur le fait qu'ils ne protégeaient pas assez la vie privée et les libertés publiques. Et je pense qu'en effet, nous sommes en train de glisser dans un monde qui n'est pas un monde très enviable.
Kevin, monsieur.
Oui, mais je crois que c'est le secret médical en fait, qui vient de voler en éclats, et les principes éthiques de la médecine qui sont en train de disparaître. Et je dirais même pire, c'est la criminalisation des malades. J'ai l'impression qu'on rétablit en fait la crécelle. Vous savez, c'est cet instrument au Moyen-Âge qu'on utilisait pour alerter les gens qu'il y a des pestiférés ou des lépreux qui passaient dans une ville. Enfin, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Je suis d'accord, il y a une remise en cause de nos libertés publiques qui est inacceptable. On a quand même été assigné à résidence pendant près de 2 mois avec des policiers qui nous attendaient à la sortie si on n'avait pas la fameuse attestation. Là, je vois qu'on ne peut pas aller au-delà de 100 km. Donc, si je fais 100 km et 1 mètre, qu'est-ce qui se passe? On m'envoie au goulag. Enfin, il y a une remise en cause de nos libertés et même de nos libertés de culte. Je veux dire, les messes ne peuvent plus se tenir.
Ils ne sont pas assez organisés pour ça, Kevin, rassurez-vous.
Non. Pardon, je n'ai pas compris.
Ils ne sont pas assez organisés pour ça, rassurez-vous, Kevin.
Oui, sans doute. Et puis même moi qui suis professeur, le droit à l'éducation, on a quand même privé des enfants d'école et on continue à priver des enfants d'école pour des motifs complètement sanitaires, alors que le taux de létalité est complètement insignifiant. Enfin, je veux dire, les personnes de 0 à 50 ans n'ont pratiquement aucune chance de développer une forme à risque et on remet en cause leur liberté publique. Enfin, c'est scandaleux ce qui se passe.
Oui, non, mais on entend ce que vous dites. Maintenant, je pense, c'est ce qu'a dit aussi le Premier ministre, cette maladie est assez compliquée, personne n'en savait rien, ça a été le cas dans beaucoup de pays, ce confinement. Donc, le dire a posteriori, et en tout cas, les médecins sont relativement unanimes sur le fait qu'il n'y avait pas d'autre solution que le confinement. Mehdi Ouraoui.
Le problème, Valérie, c'est que en fait, il fonctionne toujours avec un coup de retard. Et donc, comme on a des gens qui sont en permanence dans le désaveu de ce qu'ils ont fait la veille, voire le matin même, on a un gouvernement qui, en gros, gère cette crise comme ma fille qui est en petite section maternelle, c'est-à-dire qu'il nous donne des cartes coloriées, bien coloriés, donc ils ont droit à une bonne petite image pour leur carte coloriée, mais enfin, sur le reste de la gestion de la crise, ce qui est terrifiant, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de casser, alors c'est valable pour le droit du travail, mais pour les libertés, c'est ce qui nous réunit le plus, c'est la question évidemment des libertés individuelles et des libertés publiques, ils sont en train de casser des principes fondamentaux simplement par incompétence. C'est-à-dire que c'est le plus frappant, c'est-à-dire que pour pallier l'incompétence du Premier ministre et du Président de la République, il faudrait que nous renoncions à la liberté d'aller et venir, au secret médical. Demain quoi? C'est-à-dire qu'on nous a expliqué que d'abord, ce serait une attestation papier, ensuite un générateur d'attestation en ligne, demain, une application Stop Covid, demain quoi? Une puce sous la peau pour mesurer notre température en temps réel. On ne peut pas systématiquement faire reculer les libertés publiques et les libertés individuelles parce qu'on a été incapable d'anticiper des choses comme la commande de masques ou la commande de tests.
Est-ce que le but du gouvernement est la limitation des libertés individuelles ou la santé et la sécurité des Français, je vais être un peu
cash sur cette question-là, c'est que je crois oui qu'il y a une expérimentation à grande échelle de dispositifs de surveillance qui fait fantasmer une partie du gouvernement, notamment M. Castaner. Et moi, je ne veux pas d'une société de drones, d'applications géolocalisées et de dénonciation des malades. Et donc,
Vous êtes tous. Alors oui, on va faire réagir. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que ce serait du machiavélisme absolu, c'est-à-dire se
non,
servir
c'est pas, non, c'est
de
pas
la maladie pour créer une société de surveillance absolue. Non, je vous interroge enfin, les uns et les autres.
Je pense que c'est donner beaucoup plus de sens intelligent à la façon dont agit ce gouvernement. Malheureusement, moi, je n'y crois pas beaucoup. Quand on voit la façon dont les choses se sont succédées depuis le mois de janvier, où on a appris les premiers cas, je rappelle quand même fin janvier, et à l'époque, Madame Buzyn nous disait qu'il n'y avait aucun risque pour la France, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup d'amateurisme, beaucoup d'improvisation, et on a du mal à imaginer qu'un gouvernement qui fait preuve d'autant d'amateurisme et de peu d'imagination, je rappelle qu'avant, on a eu d'autres crises, notamment la crise sur la réforme des retraites, qui a été aussi un fiasco total parce que totalement improvisé. Donc finalement, on peut se dire une chose, c'est que il y a surtout de l'amateurisme, de l'incompétence et certainement pas du tactique, de la tactique ou de la stratégie chez eux.
Oui, je vois une auditrice qui reprend un propos, Brigitte, qui nous dit d'après certains, la puce sous la peau serait dans le vaccin Covid obligatoire. Non,
faut arrêter le
délire et le complotisme. Mais c'est Juliette Binoche qui a balancé ça. Donc quand vous avez une artiste comme ça qui dit des conneries comme ça, bah oui, évidemment.
Oui,
ça
mais à certains égards. Mais Valérie, à certains égards.
Elle n'a pas exactement dit ça.
Le gouvernement prête le flanc à ça et incite à ça, malheureusement. C'est-à-dire que à partir du moment où...
Mais vous auriez fait quoi ? Vous auriez fait quoi à leur place ?
Bah, au moins, je vous le dis, je n'aurais pas réouvert les écoles. Le drame qui est devant nous, c'est cette réouverture des écoles dont tout le monde sait que ça va être un carnage. Tout le monde sait très bien que le virus...
Kevin ne va pas être d'accord avec ça, on a fait le débat sur l'école.
On ne va pas refaire le débat, mais il faut être complètement cinglé ou ne pas avoir ses enfants à l'école en ce moment et ne pas avoir l'intention de les y remettre, comme ça. Peut-être certains membres du gouvernement, ou peut-être ne pas avoir d'enfants. Moi, c'est un choix de vie que je ne juge pas, mais la réalité, c'est que le président de la République ne connaît pas un sentiment qui nous tord le bide. Moi, je dis la vérité, c'est qu'il nous tord le bide en ce moment, qui est d'avoir peur pour son gamin. Et donc, il y a des millions de Français qui, aujourd'hui, ont peur pour cette date du 11. Pourquoi ? Parce que, et alors désolé, ça va faire hurler Eric, ça va faire hurler Kevin, peut-être même Laurence, mais parce qu'il fallait renvoyer les gens au travail.
Et
donc, on a cédé.
Et alors ?
On a cédé à une revendication du MEDEF. Mais je considère que la vie de mes enfants compte plus qu'une revendication du MEDEF. Désolé, pardon.
Non, mais alors, c'est paradoxal quand même, parce que vous dites qu'on vous a assigné à résidence et vous êtes contre le retour au boulot et à la vie normale. Il y a quand même ce paradoxe absolu.
Mais non, mais c'est ça qui est fou. On nous assigne à résidence.
Non, mais le mot
d'assigner
à résidence.
Non, mais Valérie.
C'est vrai.
Alors, un mot, Kevin, et puis après.
Oui, non, mais j'entends Mehdi, moi, ça m'horrifie. Enfin, il est dans la psychiatrisation de l'adversaire politique comme Staline l'était en son temps, c'est incroyable, on est des cinglés. Mais il faut arrêter, moi je suis professeur, j'enseigne en Seine-Saint-Denis dans un collège et je peux vous dire que je suis pour la réouverture. J'ai vu à quel point le confinement a eu des conséquences désastreuses sur les élèves les plus en difficulté. C'est sur les élèves qui n'ont plus accès à la cantine et qui ne mangent plus à leur faim. Moi, je m'étonne quand même que ce soit vous, Mehdi, le socialiste, qui ne soyez pas
Je voudrais juste faire une petite aparté là-dessus, justement, parce que je pense que c'est très important. Moi, ce qui me dérange dans cette réouverture des écoles, d'abord, c'est la question de la fourniture en matériel auprès des enseignants pour qu'ils puissent se protéger. La fourniture en gel aussi pour que tout le monde puisse se désinfecter les mains. Moi, j'ai lu à plusieurs reprises que le gel qui contient de l'alcool pouvait passer un certain nombre de barrières de la peau et je m'inquiète qu'on demande à des enfants de se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. Et je m'inquiète aussi des règles qui ont été imposées, qui sont des règles profondément technocratique. Au-delà de tout ça, ce qui est encore plus inquiétant,
je vais finir
Moi, je voudrais juste finir sur une chose parce que qui me semble essentielle, c'est l'aspect facultatif que l'on a donné dans la réouverture des écoles, parce que je considère que ce n'est pas aux parents de décider si leurs enfants doivent être scolarisés, mais c'est bien une obligation, en l'occurrence, l'instruction. On n'a pas la certitude que les parents fassent correctement le travail, et je pense que donner ce signal-là, c'est considérer que finalement l'école est quelque chose d'accessoire qui n'est pas obligatoire, et c'est un très mauvais message tant pour les parents que pour les enfants.
Parce
que je
rappelle qu'un certain nombre de parents,
je finis ma phrase. Un certain nombre de parents ont souvent considéré que les premières journées d'école au mois de septembre ou les dernières journées d'école au mois de juin ou au mois de juillet n'étaient pas très importantes, que finalement on pouvait sortir son enfant de l'école pour partir en vacances moins chères. Moi, je considère que l'école, c'est le fondement de la République. Et lorsque l'école ne devient plus obligatoire, eh bien, c'est une atteinte à la République.
Et ben voilà, allez, on se retrouve dans un instant avec vous, 0826 300 300, et Éric Vérac, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Débat très animé ce matin, donc autour du plan de déconfinement du gouvernement. Éric Vérac, vous vouliez peut-être réagir à ce qu'on disait. Juste Juliette Binoche, elle a quand même dit, il manipule les vaccins qu'il prépare, et les vaccins qu'il prépare en font partie. Mettre une puce sous-cutanée pour tous, c'est non, non, non. Voilà.
Non, mais elle fait référence aux polémiques sur Bill Gates et ses intentions. Mais moi, pour dépassionner un peu ce sujet, pense que ce qui pose problème, c'est que de semaine en semaine, on ne sait pas, par exemple, si les écoles vont rouvrir. Par exemple, à Paris, officiellement, les écoles rouvrent, mais pas toutes. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas jusqu'à quand, etc. Le gouvernement aurait fait le choix pour permettre aux gens de retourner travailler et pour relancer la machine économique, parce que la machine économique, elle ne sert pas qu'au MEDEF, elle sert à tous les Français. Et quand les gens vont retourner travailler, c'est pas pour enrichir les patrons, c'est pour s'enrichir eux-mêmes, et financer la Sécu notamment. Le gouvernement aurait fait le choix de dire on rouvre l'école en septembre. Et d'ici là, on lance un crédit d'impôt pour que les familles qui n'ont pas les moyens de faire garder leurs enfants aient les moyens de les faire garder si l'école ne rouvre pas. Parce que ça aurait permis de concilier les contraires. Et au lieu, je vais finir Laurent, au lieu de déverser des dizaines de milliards pour que les gens restent chez eux à ne pas travailler, on aurait mis des milliards publics pour que les gens puissent recommencer à travailler et à reproduire de la richesse. Et ça, ça aurait été un choix politique intelligent. Mais là, on préfère maintenir les Français dans une incertitude au quotidien qui va miner le moral de tout le monde, qui va avoir des traductions politiques, à mon avis, extrêmement dangereuses pour le gouvernement.
Très grave.
Et qui empêche la machine de repartir. Donc, nous courons en effet à l'effondrement économique parce que le gouvernement est incapable de décider.
Oui.
Alors,
oui, moi j'aimerais intervenir. Je trouve quand même qu'on est sévère vis-à-vis de ce gouvernement. Je pense qu'Édouard Philippe a fait face à une situation qui était complètement inédite, donc il a sans doute fait des erreurs, mais moi je n'aimerais pas personnellement être à sa place, parce que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est quand même très 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 compliqué. Et j'aimerais revenir également sur l'école. Enfin, il faut pas croire que le mois et demi d'école qui s'annonce, ça va être de la garderie. Enfin, les professeurs vont être mobilisés, ils vont quand même faire des heures de cours, ils vont revenir sur ce qu'ils ont fait, notamment pendant le confinement à distance. Donc, faut pas croire que c'est une garderie. Et puis, ensuite, si l'école permet en effet aux parents de garder leurs enfants pour qu'il y ait une reprise économique au niveau national. Moi, je suis enseignant et je trouve ça très bien. Enfin, on a eu quand même une perte de 5,8% du PIB au premier trimestre. On annonce 15 à 20% de contraction du PIB au deuxième trimestre, mais c'est quelque chose de complètement inédit. On va vers une crise sociale qui est affreuse, qui va faire des milliers de miséreux. Donc si l'école peut servir aussi à relever économiquement la France, moi je suis enseignant et je suis prêt à le faire.
Oui, ben on en reparlera en visio depuis un service de réanimation dans quelques semaines. Maintenant, le problème, le sujet,
c'est que
moi je veux bien qu'on aligne des grands chiffres pour écraser les gens. Moi, je vais aligner un chiffre très 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 petit. C'est le chiffre de 4. 4, c'est le nombre de fois où le président de la République s'est montré incapable de respecter les gestes barrières dans une visite d'école pendant une heure. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, avec le nombre d'adultes qui étaient mobilisés, avec des gamins au garde-à-vous, parce que c'est quand même le président de la République qui vient dans leur école, etc. Donc, c'est pas leur instit habituel ou leur prof habituel, c'est pas leur copain habituel parfois, etc. Bon, donc, dans une visite aussi organisée que ça, le président de la République a été incapable de respecter les gestes barrières au moins 4 fois. C'est ce qui a été vu par tous les observateurs. Et donc, il faut être complètement à côté de la plaque ou vraiment n'avoir jamais mis les pieds dans une école pour croire que les enfants vont réussir à respecter
quoi,
des gestes.
Mais on fait quoi? Je crois que
la solution par exemple, Eric, est une solution qui était une des solutions qu'on peut envisager. C'était dire septembre. Le minimum qu'il fallait envisager, c'était évidemment septembre, avec ben éventuellement, effectivement, des aides fiscales pour faire garder des gamins, c'est absolument indispensable, etc. Mais en tout état de cause, cette rentrée à marche forcée pour essayer de se donner des airs jupitériens va se terminer en désastre.
À marche forcée, oui. Les gens ont le droit ou pas de mettre leurs enfants à l'école, ce que dénonçait d'ailleurs Laurence tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est sur la base du volontariat. On n'y a pas d'obligation. Si vous ne voulez pas, vous ne les mettez à l'école.
Mais si votre patron vous dit de rentrer au travail là, ces jours-ci, et que l'école de votre gamin est ouverte, par exemple, vous n'avez
votre
aucune
patron,
raison.
Votre patron, ce salaud qui va vous obliger,
non,
vous
direz
si vous
retournez
pas bosser. Non, Valérie, je voudrais juste parler justement de la question.
Si votre patron vous oblige, votre patron, il vous oblige pas, il y a des énormes enfants.
Justement, Valérie, parlez-vous des exemplarités de l'État sur cette question-là, parce que l'État est un employeur. Je voudrais juste rappeler que l'État est un employeur et qu'il devrait être exemplaire en tant qu'employeur sur ces questions-là. Et en l'occurrence, moi, j'ai des informations qui viennent directement du ministère des Armées, qui proposent même aux personnes fragiles de reprendre le travail, alors qu'ils n'ont aujourd'hui pas les moyens d'assurer leur protection. Ils ont reçu 50 000 kits de 4 masques pour 260 000 personnes, et en l'occurrence 60 000 personnels administratifs. Donc ils n'ont pas suffisamment de matériel pour assurer la sécurité des gens, et pour autant, ils font en sorte que massivement les gens reviennent, ils ne mettent pas du tout en application ce qui devrait normalement être la norme et qui a été proposée par Madame Pénicaud, qui est d'obliger à continuer le télétravail, parce que les salariés de l'administration ont une peur, une trouille terrible, c'est qu'on leur vole leur jour de congé payé, puisqu'il y a des directives qui sont passées demandant à ce qu'il y ait jusqu'à 10 jours de congé payé qui soient pris à ce personnel qui a été confiné. Donc tout ça, c'est inadmissible. En l'occurrence, quand l'État est incapable de se montrer exemplaire, comment voulez-vous que l'on impose à des employeurs privés d'appliquer des règles que l'État n'applique pas lui-même? On est bien là au cœur du problème, c'est qu'on risque d'avoir une foire d'emploi dans les transports en commun dès lundi, parce que justement il n'y a pas eu de mesures obligatoires, mais simplement incitatives.
Le masque est obligatoire.
Mais le masque ne suffira pas si c'est la foire d'emploi.
Dans les transports en commun.
Ouais. Dans les transports en commun, il va être obligatoire maintenant.
Dans les transports en commun, il sera obligatoire.
Mais oui, pas dans mais la rue.
Et on pas est dans les écoles.
On est dans une société complètement folle. Je veux dire, à un moment donné, il faut accepter de vivre avec le risque. Enfin, la mort, c'est partie de la vie. Et puis, je ne vais pas m'empêcher demain de sortir de chez moi de peur de me faire écraser s'il y a une voiture qui passe. En effet, il y a un risque de sortir, mais à un moment, il faut le reprendre. Il faut peut-être relever économiquement le pays, parce que les conséquences sociales et économiques vont être désastreuses dans les prochaines années. Et moi, je remarque que le socialiste Mehdi, en fait, sur la base d'une idéologie sanitaire, remet en cause le droit à l'éducation des plus modestes, notamment des enfants les plus modestes, et se fiche complètement des salariés.
Kevin, vous êtes caricatural, Kevin, parce que vous pouvez faire télétravail et chômage.
Kevin, il y a un État aux États-Unis qui s'appelle la Nouvelle-Angleterre, dont la devise est « live free or die », qui veut dire donc vivre libre ou mourir. Et donc, au nom de cette devise, par exemple, il a été impossible, depuis maintenant la création de l'État, donc pas loin de 300 ans maintenant, d'imposer la ceinture de sécurité dans les voitures. Donc les gens ont fait ce choix collectif d'être libéraux au point de ne pas avoir de ceinture de sécurité. Mais en fait, allez vivre. Là, ici, on est en France. Et donc, on pense autrement. On pense
oui, on n'est pas en URSS.
On pense solidarité.
Non, mais
voilà,
Mehdi,
oui, non, mais d'accord.
Ça n'existe
protéger
pas.
La santé des gens, c'est pas l'URSS. Hein.
On, c'est une fiction communiste. Ça n'existe
mais dès que les avions,
pas,
dès que les avions non, mais... refonctionnent, ou vous prenez une barque, allez vivre en Nouvelle-Angleterre et live free or die. Voilà.
Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Live free or die. Merci à tous les quatre. Dans un instant, vous retrouvez, je crois que c'est André Bercoff ou Jean-Marie Bordry, je ne sais pas. En tout cas, c'est André Bercoff qui est là, dans tous ses états, en ce 8 mai. Très bonne journée à vous et très bon week-end à l'écoute de Sud Radio.